Europe 1, 7h.
C'est un des marchés les plus dilués au monde, dans la mesure où le leader sur le marché de la mode ne pèse que, entre guillemets, 4% des ventes en chiffre d'affaires. Donc c'est un marché qui est en cours d'écrémage.
Écrémage, sélection naturelle dans le secteur du prêt-à-porter, dernière victime en date, Celio, placé en procédure de sauvegarde. Nokia décide de son côté de supprimer un tiers de ses effectifs dans sa filiale française. Nous appellerons le président de Nokia France, Thierry Boisnon. La campagne des municipales à Marseille, les déboires de la liste LR font le bonheur de ses adversaires. Dans ce journal, nous irons aussi au Portugal qui prend des mesures de reconfinement dans la région de Lisbonne, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes.
Moi, je préfère qu'on soit un petit peu plus prudent tout en nous laissant travailler, plutôt qu'on nous laisse complètement libres de nos faits et gestes et qu'on reconfine en octobre, ce qui serait une catastrophe.
Et puis, comment redonner le sourire à des soignants durement éprouvés pendant le Covid, les emmener en mer.
Le soleil brille, l'eau est agréable. C'est une journée de rêve, quoi.
Demain, on retourne à l'hôpital avec plein d'élan et de motivation pour nos patients.
Et c'est l'opération Bateau du cœur.
Juste après ce journal, pour éviter diabète et obésité, il vaut mieux dîner tôt. C'est votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h20, le monde bouge. Axel de Tarlé, les Britanniques qui en pincent pour les centrales nucléaires françaises. L'édito sport de Virginie Fulpin avec Novak Djokovic, peut-être responsable d'un foyer de Covid. Et il s'en moque. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Une marque de plus rejoint la litanie des enseignes d'habillement en grande difficulté. Celio vient donc d'être placé en procédure de sauvegarde. Le leader en France du prêt-à-porter masculin connaît plus ou moins le même sort que les Naf-Naf, Lahal, Camailleux ou encore André. Toutes ces marques se disent victimes de la crise du Covid, mais ce n'est pas la seule explication. Élise Dangean.
Le coronavirus à bon dos, voilà ce qu'on entend assez régulièrement chez les syndicats d'entreprises en difficulté. Et il y a du vrai, car si les enseignes d'habillement enchaînent les déboires depuis plusieurs mois, gilets jaunes, grève, Covid-19, il y a aussi une tendance de fond, la santé fragile du secteur. En un peu plus de 10 ans, les ventes d'habillement ont chuté de 15%. En cause, l'essor de la vente en ligne, la concurrence du marché de l'occasion et bien sûr l'arrivée de l'Irlandais Primark. Mais ce n'est pas tout, explique Yves Marin, spécialiste de la distribution.
C'est un des marchés les moins concentrés au monde, les plus dilués au monde, dans la mesure où le leader sur le marché de la mode ne pèse que, entre guillemets, 4% des ventes en chiffre d'affaires, qui habille par exemple, alors que sur la plupart des marchés grand public, le leader pèse tout de suite 15 à 20% du marché. Il y a trop d'acteurs sur ce marché, donc c'est un marché qui est en cours d'écrémage.
Le virus est donc surtout l'accélérateur d'une tendance déjà bien ancrée. Yves Marin parle même de sélection darwinienne qui se serait produite avec ou sans le coronavirus.
Et il n'y a pas que dans l'habillement que ça va mal. Nokia va supprimer 1233 emplois au sein de sa filiale française Alcatel-Lucent, c'est un tiers de ses effectifs.
L'explication est simple et basique. L'équipementier télécom veut réduire ses coûts. Ça représente 831 postes sur le site de Nozay dans l'Essonne, 402 sur celui de Lannion dans les Côtes d'Armor. Une catastrophe, disent les syndicats.
Bonjour Thierry Boisnon.
Oui, bonjour.
Merci d'être l'invité d'Europe 1 ce matin. Vous êtes le président de Nokia France. Le gouvernement vous demande d'améliorer très significativement ce plan social. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin? Quelle est votre marge de manœuvre?
Écoutez, la procédure a démarré effectivement hier. Nous sommes dans un dialogue social qui conduira des consultations à partir du 6 juillet. Donc nous sommes en dialogue constant avec les représentants du personnel. Ce plan est un plan important parce qu'on a besoin de rationaliser les activités de recherche et de développement à l'échelle mondiale. Et on a besoin effectivement d'atteindre des niveaux de rentabilité qui sont durables sur un marché qui est extrêmement compétitif.
C'était pas vraiment ma question, projet. Pardonnez-moi, quelle est la marge de manœuvre que vous avez sur ces 1233 emplois?
Je vous ai précisé qu'effectivement on entrerait dans un dialogue à partir du 6 juillet et donc on verrait pendant la procédure comment on peut faire évoluer le nombre de transformations qui sont en cours.
Du côté des syndicats, on se sent trahi. On a plusieurs réactions ce matin. Vous avez entendu certaines qu'on a citées. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre aujourd'hui?
Nokia est un acteur majeur et très stratégique en France. On a plus de 5000 personnes en France. C'est un des sites qui est un site critique et qui le restera pour Nokia dans le monde. La France a déjà beaucoup de recherche et développement. On a des développements dans la 5G, on a des développements dans les faisceaux Hertzien et on a un grand laboratoire de recherche avec les Bell Labs qui resteront après ce plan de rationalisation que l'on met en place. Donc la France restera un futur très important pour le groupe Nokia. Sans doute l'acteur déjà le plus important en France et l'acteur dans les télécoms qui restera l'acteur le plus important après la mise en place de ce plan.
Merci Thierry Boinon, merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans le journal de 7h d'Europe 1 ce matin, le président de Nokia France.
Direction maintenant l'Allemagne, secouée par un énorme scandale financier, l'effondrement frauduleux d'une star de la bourse de Francfort. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Et oui, en Allemagne, on compare cette affaire à la faillite d'Enron aux États-Unis au début des années 2000 ou encore au Dieselgate de Volkswagen. Cette fois, c'est une star de la finance qui est en cause, une société au nom peu connu, Wirecard, mais qui joue un rôle essentiel puisque son métier consiste à gérer les paiements en ligne de plus de 300 000 entreprises dans le monde et faire en sorte que quand vous achetez quelque chose en ligne, le commerçant soit bien payé. Alors Wirecard a commencé dans les jeux en ligne et le porno avant de devenir un géant des paiements électroniques, un géant qui valait 24 milliards d'euros il n'y a pas longtemps à la bourse de Francfort et qui ne vaut pratiquement plus rien aujourd'hui.
Elle ne vaut rien car on a découvert une fraude gigantesque.
Oui, et c'est là que l'affaire est embarrassante parce que ni le cabinet d'audit EY censé contrôler les comptes, ni le gendarme de la bourse n'ont rien vu. C'est une honte d'ailleurs, a dit le président de l'autorité de contrôle allemande. Les enquêteurs ont découvert une somme de 1,9 milliard d'euros qui était inscrite dans les comptes de Wirecard mais qui en fait n'existait pas. Ces fonds étaient censés appartenir à des banques basées aux Philippines. En réalité, c'était un leurre. C'était une écriture frauduleuse. Alors a priori, aucun particulier ne serait lésé. Mais après la découverte l'an dernier de malversations chez Deutsche Bank, ce nouveau scandale ternit un peu plus l'image de la finance allemande.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et puis on vous le révélait dès la semaine dernière, le gouvernement va alléger le protocole sanitaire dans les entreprises, avec notamment la fin des 4 mètres carrés pour chaque salarié. Ce sera une simple distance d'un mètre. Le nouveau protocole sera dévoilé avant la fin de la semaine. Il a prononcé ces mots 7 fois, j'étouffe avant de tomber dans le coma. C'est ce que révèle l'expertise sur la mort du livreur de 42 ans, Cédric Chouvia. Les 4 policiers impliqués dans son arrestation ont été entendus en garde à vue la semaine dernière. La famille espère leur mise en examen.
Nous sommes à 5 jours des municipales. Marseille, bastion des Républicains, dirigé par Jean-Claude Gaudin depuis 25 ans et qui pourrait bien tomber dans l'escarcelle de la gauche, d'autant plus qu'une affaire de procuration frauduleuse secoue la liste de Martine Vassal.
Et dernier rebondissement en date, un élu LR a rallié le Rassemblement National. Il ne mâche pas ses mots vis-à-vis de ses anciens alliés. À Marseille, Stéphane Frangy.
Il quitte les Républicains pour le Rassemblement National. Alain Hémet, adjoint aux anciens combattants à la mairie des 11e et 12e arrondissements, militant pour la droite marseillaise depuis plus de 40 ans, se dit écœuré par l'affaire des procurations de vote.
Plus de tripatouillage électoral, plus rien. On est élu sur un programme, pas sur des fraudes. Oui, il m'est arrivé de voir des choses, mais je ne peux pas vous dire quoi. Bien sûr qu'ils sont prêts à tout. Il y a eu l'époque de fer où il y avait des bourrages d'urnes, où il y avait tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'ils seraient prêts à le faire. Ils sont prêts à aller beaucoup plus loin.
Pendant ce temps, le camp Vassal tente une contre-attaque médiatique menée en l'absence remarquée des principales têtes d'affiche. Des colistiers comme l'avocat José Allegrini annoncent avoir compté un nombre anormalement élevé, selon eux, de procurations dans certains secteurs de la ville pour le premier tour.
On ne dit pas à gauche, c'est pareil, match nul, la balle au centre. Il semble qu'il y ait des incongruités par ailleurs et nous souhaiterions que l'on s'inquiète un peu de toutes ces procurations sur tout le territoire municipal.
Et ces colistiers de Martine Vassal ne sont pas en mesure pour l'heure de prouver la moindre irrégularité, mais annonce qu'un premier recours est déjà déposé. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
De Marseille à Paris, ce matin sur Europe 1, David Béliard, l'allié écologiste d'Anne Hidalgo, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15.
Europe 1.
Le Covid repart au Portugal et surtout dans la région de Lisbonne. Résultat, le retour de mesures de confinement. On en parle dans la suite du journal de 7h. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h11, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Alors qu'un peu partout en Europe plane la crainte d'une deuxième vague, le Portugal décide de resserrer un peu l'étau.
Et oui, plusieurs foyers de contamination ont été décelés, notamment dans la région de Lisbonne. De nouvelles règles entrent donc en vigueur aujourd'hui. Henri de Laguérie.
Le noyau du problème se situe à Lisbonne, c'est là que des mesures ont donc été prises. La consommation d'alcool dans la rue est désormais interdite, la police sera plus sévère avec ceux qui participent à des rassemblements illégaux, les cafés et les commerces devront fermer à 20h. Arthur Mérandon, patron du restaurant French Art dans le très animé Bairro Alto, peut continuer à travailler, mais avec de nouvelles contraintes.
Oui, inquiet, on l'est tous forcément un petit peu. Après, c'est pas un reconfinement total. Nous, en tant que restaurateurs, les mesures qui vont nous concerner, c'est la limitation des groupes à partir de 10. La fermeture des commerces à 20h ne concerne pas les restaurants. Après, je pense que c'est peut-être mieux de remettre quelques mesures de sécurité. Moi, je préfère qu'on soit un petit peu plus prudent tout en nous laissant travailler, plutôt qu'on nous laisse complètement libres de nos faits et gestes et qu'on reconfine en octobre, ce qui serait une catastrophe.
Grâce à un confinement précoce, le Portugal a été relativement épargné par l'épidémie, mais le comportement des plus jeunes à Lisbonne inquiète alors que des fêtes non autorisées ont eu lieu un peu partout le week-end dernier. Le gouvernement redouble donc de prudence et a ainsi reporté l'ouverture de sa frontière avec l'Espagne au 1er juillet.
Des mesures plus sévères au Portugal et au Royaume-Uni. On accélère le déconfinement. Les chiffres sont à la baisse. Aujourd'hui, Boris Johnson doit annoncer officiellement la date de réouverture des pubs et des restaurants. Date évidemment très attendue, ce devrait être le 4 juillet.
Prendre la mer, histoire d'oublier un peu l'épuisement de ces derniers mois, de se reconnecter. C'est l'opération Bateau du Cœur qui a commencé hier sur la Côte d'Azur.
Le propriétaire d'un catamaran à Nice, Jean-Luc Guittard, avait lancé un appel en avril dernier sur Europe 1. Il demandait aux propriétaires de bateaux d'inviter des personnels de santé pour une balade d'une journée ou d'un week-end. Première sortie donc en mer pour 4 copines infirmières.
Allez, vas-y, fais-nous un gros plouf. Ouais, bravo.
Elle est fraîche.
Ben non. Grand luxe.
C'est un énorme plaisir.
Moi, j'étais jamais montée sur un bateau aussi.
Ah voilà.
C'est bien d'avoir un joli bateau, mais si t'es tout seul dessus, ça sert à quoi?
Le soleil brille, l'eau est agréable. C'est une journée de rêve, quoi.
Demain, on retourne à l'hôpital avec plein d'élan et de motivation pour nos patients.
C'était vraiment beaucoup de pression. C'était long. Il y avait beaucoup de peur.
Dès la fin du confinement, il n'y a eu plus d'appolissement à 20h. Dans le quotidien, quand tout va bien, on ne se préoccupe pas du bien-être, de la charge de travail, des soignants. Donc c'est pour ça que cette idée, c'est super, quoi. Ça fait du bien aussi au moral.
Alors, si ça vous intéresse, mesdames, d'apprendre à faire un nœud principal.
J'en suis pas trop douée pour ça.
Plus pour la baignade?
Oui.
Là, je suis déjà plein quasiment jusqu'au 6 septembre, tous les week-ends. Et j'attaque maintenant les jours en semaine. Je pense que je vais transporter plus de 100 personnes. Et j'espère qu'on va être 100 capitaines au minima à offrir ces balades.
Oh, merci Jean-Luc. Si le Ségur pouvait apporter autant de plaisir.
Et voilà, prendre le large, ça fait du bien au moral. Joli moment capté par Frédéric Michel.
C'est un joli nom pour un bateau, ça, le Ségur.
Oui, pourquoi pas.
J'essaie de me projeter un peu avec ces infirmières. Merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil.
À 7h14, notre rendez-vous santé avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Jimmy, ce matin, vous allez nous parler de nutrition. Enfin, vous n'allez pas nous donner vos meilleures recettes de cuisine, pas aujourd'hui en tout cas, mais vous allez nous expliquer que l'heure du dîner pourrait favoriser l'obésité et le diabète.
Eh oui, alors je ne vous donnerai pas tout de suite ma recette de steak frites ou de pâtes. Et c'est une étude très intéressante, puisque on sait que manger gras ou trop sucré est un facteur de risque de surpoids et d'obésité. Ça, c'est plutôt intuitif. Mais des chercheurs de l'université d'Hopkins se sont posé la question si l'heure du dîner en avait un impact. Et donc pour ça, ils ont pris des sujets sains, des hommes et des femmes qui avaient 25 ans en moyenne, qui n'étaient pas en surpoids, qu'ils ont fait manger à 18h. Et puis ils ont pris exactement les mêmes personnes et ils les ont fait manger à 22h. Ensuite, ils les ont tous couchés d'une façon normale à 23h. Et on s'est rendu compte que ceux qui avaient pris un repas tardif avaient plus 20% de taux de sucre, moins 10% de graisses qui sont éliminées et des triglycérides qui sont élevés. Tout ça, sur le long terme, c'est un facteur de risque de développer le diabète et une obésité.
Est-ce que cela pourrait aussi favoriser d'autres maladies d'ailleurs que de manger tard le soir ?
Alors oui, si on s'intéresse toujours à l'heure du dîner, à contrario, dans une autre étude, le fait de dîner tôt, et c'est-à-dire de ne pas se coucher tout de suite, au moins attendre 2 heures, eh bien ça a entraîné une diminution du risque de 20% du cancer du sein et de la prostate. Et en ce qui concerne la quantité, une étude avait montré chez des femmes qu'un repas trop calorique le soir était corrélé à une augmentation de la tension artérielle, était aussi un facteur de risque de surpoids et un moins bon équilibre du diabète. Bref, des tout petits changements dans votre vie qui peuvent avoir évidemment un grand impact sur votre santé.
Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, tous les jours, hein, juste après le journal de 7h, à partir de 15h, dans 100 rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Et ce matin, à 8h30, puisqu'on va parler ensemble, Jimmy, du déconfinement et du relâchement peut-être. Je pose cette question aux Français. Les gestes barrières au boulot, en famille, on en est où aujourd'hui, 23 juin? Très simplement, est-ce que vous faites la bise? Est-ce que vous serrez la main? Est-ce que vous avez un peu relâché, desserré l'étau? Dites-le nous au 39 21. Nous serons avec Jimmy, le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed, à 8h30.
7h16, l'innovation du jour sur Europe 1, nous sommes avec Anissé Mbida.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La 3D a fini par disparaître de nos télés, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est parti aussi vite que c'est arrivé ça. Mais surprise, elle arrive maintenant dans les voitures avec la commercialisation du premier 4x4 avec un tableau de bord en 3D.
Oui, et pourquoi en 3D ? Eh bien pour la sécurité, figurez-vous. Il se trouve que sur les voitures modernes, il y a de plus en plus d'électronique, d'aide à la conduite et donc d'informations affichées sur le tableau de bord. Bah, du coup, on peut avoir un peu de mal à savoir où et quoi regarder. Eh bien la théorie, c'est qu'en utilisant la 3D, on peut carrément faire sauter au visage les informations les plus importantes comme une limitation de vitesse, un panneau stop ou un piéton qui arrive au loin. Et tout ça sans ajouter en plus des alarmes sonores. Donc ça sera quand même un petit peu plus confortable.
Est-ce qu'il faut des lunettes comme au cinéma pour voir cette 3D ?
Non, pas besoin de lunettes. Ah hein. Il y a une petite caméra qui suit le regard et qui affiche après une image pour l'œil gauche et une image pour l'œil droit. C'est l'équipementier Continental qui a développé ce système et il commence à être commercialisé sur les 4x4 et sur les limousines Genesis. C'est la marque grand luxe de Hyundai. Et ils insistent sur un point particulier, c'est que tout est fait pour que la 3D ne soit pas une distraction supplémentaire. Donc, par exemple, quand on regarde un petit peu trop fixement le tableau de bord, la luminosité va baisser quasiment jusqu'à s'éteindre pour obliger à regarder ailleurs.
Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être amené à se développer ?
Si on écoute Continental, oui, évidemment. D'ailleurs, ils ont commencé déjà à travailler sur la prochaine génération. Cette fois, ça va fonctionner sans caméra, directement avec un écran holographique. C'est une technologie française, d'ailleurs, de la société Leia qui sera utilisée. Alors, c'est pratique, c'est très joli, c'est moderne. Reste quand même à savoir si c'est vraiment plus efficace en matière de sécurité.
À suivre donc. Anissé Mbida, l'innovation tous les matins sur Europe 1. Merci beaucoup Anissé, il est 7h18.
Europe 1. Le tennisman Novak Djokovic peut être à l'origine d'un foyer de Covid. Problème, nous dira Virginie Fulpin, il s'en moque, son édito sport sur Europe 1.
Le monde bouge, Axel de Tarlet juste avant, à tout de suite.
Il est 7h21, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Et Axel de Tarlet, bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Le monde bouge Axel. EDF, candidat pour une nouvelle centrale nucléaire en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni fait figure de terre promise pour l'électricien français.
Eh ben oui, il faut croire que les Anglais raffolent de nos fromages, nos grands vins de Bordeaux et de nos centrales nucléaires. EDF est en effet en train de construire deux réacteurs EPR à Hinkley Point dans le sud-ouest du pays. Alors comme en France d'ailleurs, il y a des retards et des surcoûts. Mais ça n'arrête pas les Anglais qui envisagent de commander à EDF deux autres réacteurs EPR à Sizewell, cette fois c'est dans l'est du pays. Et voilà qu'on apprend hier que selon le Télégraphe, EDF serait aussi candidat pour participer à la construction d'une autre centrale nucléaire. Alors cette fois-ci, c'est au nord-ouest de l'Angleterre.
Mais pourquoi tous ces projets de nouvelles centrales ? Il y a quand même beaucoup de pays, au contraire, qui sont en train de sortir du nucléaire.
Oui, alors d'abord, c'est une sacrée reconnaissance pour EDF et pour sa technologie, hein, souvent moquée de l'EPR. Et puis, ça montre aussi la confiance que l'entreprise...
Souvent moquée, il y a eu un peu de retard quand même.
Oui,
quelques milliards.
À raison. Et puis ça coûte très cher. Non, c'est aussi la reconnaissance que l'entreprise inspire confiance. Parce que le nucléaire, c'est évidemment un sujet très sensible. Et on comprend que les Anglais préfèrent faire appel pour une centrale à une entreprise française comme EDF plutôt qu'à des Chinois ou à des Russes. Puis, sur le fond maintenant, c'est vrai que le nucléaire est en train, alors non pas de revenir à la mode, mais en tous les cas, il n'est plus la tête de turc favorite des défenseurs de l'environnement. Et pour cause, le nucléaire ne rejette pas de CO2. Et donc, vous avez des écologistes qui disent, à un moment, face à l'urgence climatique, il faut savoir hiérarchiser les problèmes. Et donc, oui, à tout prendre, mieux vaut produire de l'électricité avec du nucléaire plutôt qu'avec du charbon, comme le font les Allemands, qui viennent encore, c'est passé inaperçu, d'ouvrir une nouvelle centrale à charbon à côté de Dortmund. Et ça pollue. Je vous invite, pour le voir avec vos yeux vus, à aller sur le site electricitymap.org. qui mesure en temps réel les émissions de CO2 dues à l'électricité. Je l'ai encore fait ce matin. Donc pour la France, en ce moment, c'est 69 grammes de CO2 par kilowattheure. En Allemagne, c'est 400 grammes de CO2. Pays-Bas, près de 500 grammes. Vous voyez, 7 fois plus que la France. Hein. Donc oui, on comprend et on se réjouit que les Anglais préfèrent s'inspirer du modèle français plutôt que du modèle allemand ou hollandais.
Merci Axel de Tarlet. Le monde bouge et vous le racontez le matin sur Europe 1.
7h23, l'édito sport de Virginie Fulpin sur Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Novak Djokovic pourrait-il être à l'origine d'un cluster de Covid ? Aucune mesure barrière n'a été respectée dans le tournoi de tennis qu'il a organisé dans les Balkans. Il y a déjà 5 cas positifs. Pour vous Virginie, le problème c'est que Novak Djokovic pense trop à lui-même pour avoir conscience du reste du monde.
Mais on dirait qu'il a des œillères. Ses obsessions sont claires. Hein. Il veut être le meilleur joueur de tennis de l'histoire, donc dépasser Nadal et Federer au palmarès, mais il veut aussi être plus aimé qu'eux, entrer dans les cœurs. valeur. Et du coup, le reste et les autres lui importent peu. Il n'a que ses objectifs en tête. Quand il a organisé son tournoi exhibition, au départ, je trouvais que c'était une bonne idée de reprendre le tennis en douceur. Bah oui, sauf que Novak Djokovic a fait comme si le virus n'existait pas. Des dizaines de spectateurs en tribune sans distanciation. Et sur le court, de la part des joueurs, des étreintes en veux-tu en voilà. Résultat, 5 tests positifs pour l'instant et des joueurs en quatorzaine. Lui, il n'a pas voulu être testé en Croatie, il voulait d'abord rentrer en Serbie. Alors vous savez que Novak Djokovic a grandi pendant la guerre en ex-Yougoslavie, ça vous fait appréhender la vie un peu différemment. Il en a gardé un fort sentiment nationaliste, il se voit presque avec la stature d'un homme d'État dans son pays. Et ça aussi, ça le déconnecte des réalités. Il se voit comme un surhomme en fait, plus fort que le Covid. D'ailleurs, en Espagne, il avait déjà repris l'entraînement une semaine avant que ça ne soit autorisé. Il a aussi expliqué que si jamais il y avait un vaccin, ce serait pas pour lui. C'est déroutant. C'est dangereux aussi parce qu'avec tout ça, il est capable d'avoir enfanté un cluster dans le monde du tennis. On devrait avoir les résultats de son test aujourd'hui, en espérant évidemment qu'il soit négatif.
Les autres joueurs sont très critiques envers Novak Djokovic.
Mais il est en train de se mettre tout le monde à dos. Le dernier à l'avoir remis en place, c'est Nick Kyrgios, qui l'accuse d'avoir été irresponsable d'organiser ce tournoi dans ces conditions-là. Il faut être fort pour se faire reprendre de volée par le bad boy australien. Normalement, c'est plutôt le contraire qui se passe. Les joueurs qui ne font pas partie de l'élite du tennis lui en veulent beaucoup aussi, parce que Novak Djokovic n'envisageait pas une seconde de se déplacer à l'US Open sans tous les membres de son staff. Résultat, les moins bien classés ne sont plus conviés pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Le Serbe n'a pas non plus daigné participer à une réunion virtuelle entre joueurs pour parler des conditions de la reprise. Bah oui, le problème, c'est qu'il est président du Conseil des joueurs. Mais le collectif, ça ne l'intéresse pas, sauf quand c'est pour sa cause. Voilà donc le paradoxe de celui qui veut être aimé de tous et qui finit par être détesté. Ne penser qu'à soi et se sentir invincible. Novak Djokovic aura réussi le grand chelem en ces temps de pandémie. Et celui-là, c'est sûr, Nadal et Federer ne le gagneront jamais.
Ce grand chelem-là, non. Merci Virginie Fulpin. L'édito sport de Virginie tous les matins sur Europe 1 à 7h25. À retrouver évidemment sur europe1.fr. Il est 7h26.
Europe 1. Dans un instant, un nouveau journal, la météo avec Laurent Cabrol. À tout de suite.
7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et voici la première étape de 3 étapes particulièrement chaudes cette semaine. Il fera aujourd'hui, cet après-midi, au meilleur dans l'après-midi, entre 26 et 34 degrés. 30 à Paris, 31 à Biarritz, 32 à Lyon. Et les températures les plus fraîches ou les moins chaudes, 26 à Caen. Demain, mercredi, 31 à 33 degrés sur l'ensemble des régions de France. Jeudi, 32 à 35. Vendredi, 32 à 33. Et samedi, dimanche, les orages arriveront, mais on ignore encore leur importance et leur nombre.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol. Jérôme Lacroix est avec nous. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1. Il est presque 7h30.
Des douilles de calibre 9 mm ont été trouvées dans le parking de l'école. Nos élèves et nous-mêmes n'étions plus en sécurité. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Mais on tiendra.
Au bord des larmes, mais combatif, le directeur de cette école élémentaire de Nîmes, dans un quartier défavorisé, toute l'école a dû déménager dans un centre de loisirs voisin pour fuir les violences liées au trafic de drogue. Nous serons sur place dès le début du journal. La fin de l'espace de 4 mètres carrés pour chaque salarié, changement majeur du nouveau protocole sanitaire dans les entreprises qu'Europe 1 s'est procuré. La réouverture de Disneyland Paris le 15 juillet, nous verrons dans quelles conditions pour les visiteurs. Et puis c'est un cercle de 2 km de diamètre découvert en Angleterre qui fascine les archéologues. Il serait vieux de 4500 ans, on vous raconte.
Juste après ce journal, le président de l'Olympique de Marseille en direct sur Europe 1, Jacques-Henri Hérault, dans moins de 10 minutes. 7h50, Périscope, c'est le rendez-vous culture de la matinale. Jean-Philippe Ballas en immersion dans les coulisses de la cérémonie des Molières. C'est avant 8h, l'opinion de Nicolas Bétou au sujet d'une candidature de Jean-Marie Bigard. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h31.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Vos enfants sont peut-être retournés en classe hier dans des conditions normales ou presque. L'école élémentaire dont nous vous parlons ce matin connaît une situation qui n'a rien de normal. Direction Nîmes, quartier du Chemin Bas d'Avignon, classé REP+. Les élèves ne peuvent plus aller dans leur école pour raison de sécurité. Ils doivent fuir les violences liées au trafic de drogue.
Présence continuelle des dealers et surtout ces tirs à l'arme lourde qui résonnent régulièrement dans le quartier. Un jeune homme de 20 ans a même été abattu il y a 10 jours, juste devant l'établissement. Climat intenable. La mairie a décidé de délocaliser l'école dans un centre de loisirs voisin. Les enseignants, mais aussi les enfants, sont bouleversés. Nathalie Chevance.
Il y a plein de guetteurs. S'ils partiraient, on serait déjà tranquille. Il n'y aurait plus de problème ni rien.
J'en ai fait des cauchemars.
C'est pour éviter davantage de traumatismes qu'il a fallu délocaliser l'école. 150 enfants transférés tous les matins par bus dans un centre de loisirs en pleine nature. Un hiver apaisant, loin du réseau et des trafiquants qui ne respectent plus rien. Christophe Boissier, directeur de l'établissement.
Trois intrusions dans la cour de l'école qui donc nous font déclencher l'alerte intrusion attentat où des douilles de calibre 9 mm ont été trouvées dans le parking de l'école par moi-même. Les parents de nos élèves et nous-mêmes n'étions plus en sécurité pour travailler sereinement, calmement et pour assurer nos missions que la République nous demande d'assumer. Ça m'a mis les larmes aux yeux. Mais on tiendra.
Avec une équipe pédagogique et des familles qui se serrent les coudes, soulagées malgré tout par ce déménagement, Saïda est maman de deux petites filles.
Nos enfants n'étaient pas en sécurité. C'est pas normal qu'on ait la peur au ventre. Au lieu de dire à nos enfants le matin, travaillez bien, on leur dit faites attention. Si vous entendez un bruit, mettez-vous sous la table. Enfin, des coups de feu, vous vous rendez compte? Et c'est triste.
Et un nouveau grillage de sécurité devrait être installé autour de l'école pour la rentrée de septembre. Nîmes, Nathalie Chevance, Europe 1.
Europe 1, vous le révélez dès la semaine dernière, le gouvernement va alléger le protocole sanitaire dans les entreprises. Principale mesure, la fin des 4 mètres carrés pour chaque salarié. 1 mètre de distance suffira. Précision dès le début du journal de 8 heures.
Sur le front de l'épidémie, la Guyane reste surveillée de très près. Elle subit une accélération des contaminations. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue sur place.
Emmanuel Macron est, lui, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, entretien avec le Premier ministre Mark Rutte sur le plan de relance européen post-coronavirus. 750 milliards d'euros prévus. Espagne et Italie, pays les plus touchés, en seraient les principaux bénéficiaires.
Les 27 doivent s'entendre d'ici un mois. Les Pays-Bas font partie des pays très réservés sur le projet, on l'a raconté. Emmanuel Macron va tenter de convaincre, donc, comme le décrypte Stéphane Séjourné, député européen de La République En Marche.
C'est un déplacement qui a vocation à débloquer un certain nombre de sujets qui bloquent encore, hein, avec les Néerlandais, notamment le montant de ce plan européen, notre capacité à faire des transferts d'argent et pas uniquement des prêts. Et ça montre aussi que le président de la République, il est à la manœuvre sur ce sujet-là avec la chancelière. Il y aura probablement d'ailleurs une rencontre prochainement entre la chancelière et le président, sachant que le Parlement européen aura à se prononcer sur le plan de relance et les parlements nationaux également. Donc, il faut à la fois convaincre le Premier ministre néerlandais, mais aussi le Parlement néerlandais.
Stéphane Séjourné, joint pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois. Les réquisitions aujourd'hui et jusqu'à demain matin au procès fleuve du Mediator coupe fin des laboratoires Servais qui a fait des milliers de victimes.
Europe 1, il est 7h34.
Les syndicats de Nokia reçus aujourd'hui au ministère de l'économie. Le groupe Télécom envisage la suppression de 1233 emplois dans sa filière Alcatel-Lucent en France. Un tiers des effectifs du pays. Bercy demande d'améliorer, je cite très significativement son plan.
Mickey, Donald et bien sûr Elsa, la Reine des Neiges, l'univers magique de Disney déconfiné. Disneyland Paris rouvrira ses portes le 15 juillet, mais avec quelques contraintes. Sécurité sanitaire oblige. Les détails avec Carole Ferry.
Pas question de venir à Disney sur un coup de tête. Il faudra obligatoirement réserver à l'avance. Le nombre de visiteurs sera limité pour répondre aux contraintes sanitaires. Si vous aviez déjà réservé pour cette période, votre billet reste valable. Sur place, toutes les attractions seront ouvertes. Il y aura un marquage au sol pour les files d'attente. Le port du masque sera obligatoire dès 11 ans. Et dès l'entrée du parc. Ça, c'est la règle en vigueur pour le moment, mais qui pourrait évoluer pendant l'été. Au parc Astérix, par exemple, il avait d'abord été envisagé de le rendre obligatoire en continu, et puis finalement, les visiteurs peuvent l'enlever quand ils se baladent dans les allées. À voir donc pour Disney. En tout cas, les restaurants et les magasins seront également ouverts. Par contre, tous les spectacles sont annulés pour le moment, y compris le feu d'artifice des soirées nocturnes et la fameuse parade. Alors pour compenser, il y aura un peu plus de rencontres avec les personnages de Disney. Mickey devrait beaucoup plus se balader à la rencontre des visiteurs pour faire des selfies. Les câlins, en revanche, seront interdits.
Une trouvaille extraordinaire, révolutionnaire. C'est en ces termes que les archéologues britanniques sont euphoriques après la découverte annoncée hier d'une structure préhistorique, il est vrai stupéfiante, près du célèbre site de Stonehenge dans le sud-ouest de l'Angleterre.
Un cercle de plus de 2 km de diamètre, délimité par des cavités larges et profondes qui entourent d'autres constructions plus massive, le site daterait d'il y a 4500
ans. Pourquoi une telle émulation des scientifiques? Laurent Olivier nous l'explique, il est conservateur en chef au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.
C'est un immense anneau qui fait à peu près 2 km de long et qui entoure toute une série de constructions monumentales qui étaient jusqu'à présent complètement inconnues. Ça montre que vers 3000 avant Jésus-Christ, on a déjà des constructions d'une immense complexité qui requièrent non seulement de la technologie, il faut pouvoir creuser des fosses jusqu'à 5 mètres de profondeur, déplacer sans doute des blocs de plusieurs dizaines, voire centaines de tonnes, mais aussi qu'il y a de la science derrière ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir concevoir les alignements, calculer les distances dans l'espace. Et apparemment, c'est une limite d'un grand complexe cultuel et qui semble fonctionner comme une sorte de couloir le long duquel on se déplace par rapport au monument. Ça a sans doute aussi une fonction d'observatoire. C'est sans doute lié à l'observation des étoiles.
L'archéologue et historien Laurent Olivier qui était ce matin l'invité du journal de 6h sur Europe 1.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Vous êtes sur Europe 1, 7h37.
Europe 1.
Paris et Marseille ce matin sur Europe 1. La municipale à Paris, 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le colistier d'Anne Hidalgo, l'écologiste David Béliard. Tout de suite, le président de l'Olympique de Marseille en direct sur Europe 1. Nous retrouvons Jacques-Henri Hérault dans quelques toutes petites secondes. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h40, les acteurs de l'actualité en direct. Votre invité Mathieu Béliard, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault.
On écoute le monde changer avec le président de l'OM ce matin. Bonjour Jacques-Henri Hérault.
Bonjour Mathieu Béliard.
Le joueur africain est déjà entré dans l'histoire du football européen. Votre tribune remarquée il y a quelques jours, vous la co-signez avec le gardien marseillais champion du monde Steve Mandanda. C'est votre réponse au débat de ces derniers jours, de ces dernières semaines sur le racisme. Vous faites de l'OM et de Marseille un symbole du multiculturalisme, de la diversité sur le terrain comme dans les tribunes.
Bien sûr, je crois que c'est connu de tous. Ce club est à l'image du pays, il est empreint de diversité. Il a laissé sa place depuis des années déjà à des joueurs de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau et notamment des joueurs africains. C'est ce qu'on a voulu souligner avec Steve Mandanda qui est un enfant du Congo, un enfant de la République démocratique du Congo, né à Kinshasa et arrivé à Évreux, je crois il avait 2 ans, donc quel parcours, quelle chance pour la France et quelle chance pour la France du football d'avoir un Steve Mandanda aujourd'hui.
N'importe quel fan de foot en a conscience, on n'est pas regardant sur la couleur de peau chez les joueurs de foot comme dans le monde de l'entreprise ou comme pour accéder à certains services. En revanche, qu'en est-il des dirigeants, des décideurs, Jacques-Henri Hérault ?
Mais c'est vrai qu'on peut s'étonner que dans les instances, et c'est vrai à la Ligue de football professionnelle, quand on est 25 autour de la table, et je fais partie du conseil d'administration de la Ligue de football professionnelle, eh bien il n'y a que 2 membres issus de la diversité, comme on dit.
Dans votre tribune, vous parlez d'une anomalie, Pape Diouf, référence à votre prédécesseur qui est décédé à la fin du mois de mars. Ces joueurs s'y représentaient dans les vestiaires, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à grimper les échelons et à se retrouver dans les instances autour de la table avec vous ?
Ben c'est incompréhensible. Il y a un plafond de verre et c'est vrai que Marseille, l'OM, a été le premier club à avoir un président noir d'origine africaine, Pape Diouf. Il faut changer ça. Il faut essayer d'ouvrir les portes et les fenêtres et accueillir des talents, quelle que soit leur couleur
de
peau. Ben, je crois que ça passe par l'éducation, évidemment, hein, dans les clubs déjà, à essayer de faire dans notre position, confiance et donner sa chance à d'abord au talent plutôt qu'aux origines. Et donc ensuite, une fois qu'on aura fait ça davantage au niveau local, dans chaque club, eh bien, je pense que naturellement, on fera des progrès au niveau des instances. Et ça me semble quelque chose, un enjeu extrêmement, extrêmement important.
Dans l'actualité de l'Olympique de Marseille, vous cherchez un directeur sportif ou un head of football, comme spécifié sur l'annonce que vous avez publiée sur le réseau LinkedIn. La méthode a surpris, voire amusé les internautes. Jacques-Henri Hérault, ce head of football, ce directeur sportif, il sera noir ?
Écoutez, on c'est pas sur ce critère-là en tout cas qu'on le recrute. On le recrute d'abord parce qu'il doit être le meilleur talent pour venir nous apporter son expertise, sa connaissance du football. Et évidemment, on jugera sur ce critère-là. Et il y a d'ailleurs sur ces fonctions-là de plus en plus de dirigeants, de managers issus de la diversité. Donc en tout cas, on est ouvert à tous les profils et le vrai critère qui nous fera prendre notre décision, ce sera le talent, ce sera la compétence. Évidemment pas la couleur de peau ou les origines.
L'OM en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille. Cela dit, Jacques-Henri Hérault a été condamné à une amende de 3 millions d'euros pour avoir enfreint les règles du fair play financier. Plus 15% de vos recettes en Europe sur les prochaines saisons. D'un mot, je le rappelle pour nos auditeurs, le fair play financier interdit à un club engagé sur la scène européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne. Bref, les supporters sont heureux de se retrouver en Ligue des Champions, mais vous allez jouer financièrement désarmé. Est-ce que Thauvin, Mandanda, les champions du monde, ou Dimitri Payet, est-ce que cet été, les stars de l'OM sont à vendre ?
Non, il n'y a pas de grande solde à l'Olympique de Marseille. Il y a d'abord eu pendant 4 ans la volonté d'investir massivement pour relancer le club et son projet sportif. Et évidemment, on n'a pas fait tout bien, on a des échecs, mais on a aussi beaucoup de succès. Et en tout cas, ce club est redevenu au plus haut niveau du football français, a fait une finale de Ligue Europa et après sa 3e année complète au sein de l'élite, retrouve la Ligue des Champions. Et ça, c'est ce que beaucoup de supporters attendaient.
Avec les noms que j'ai cités, on aura en Ligue des Champions Mandanda, Thauvin, Payet,
Bien sûr qu'ils seront là avec un maillot marseillais, et notre volonté en tant que dirigeant, c'est évidemment d'être le plus compétitif possible, mais aussi de le faire sur la base d'un modèle économique pérenne, parce que on ne peut pas, et on l'a dit dès le départ, soutenir des investissements aussi massifs pendant une période aussi longue. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons annoncé qu'on rentrait dans une phase où la performance sportive va être toujours notre objectif primordial, mais on va essayer de le faire avec un modèle économique pérenne. Et ça, comme toutes les entreprises, c'est quelque chose que les dirigeants doivent rechercher, et c'est ce qu'on va faire à l'Olympique de Marseille.
Avec des difficultés financières qui ne concernent pas que l'Olympique de Marseille d'ailleurs, la Ligue 1 est impactée, il y a eu la question des droits, il y a la période de confinement, les entraînements reprennent peu à peu, vendredi prochain pour vous je crois du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a eu ces débats pendant des semaines avec notamment Jean-Michel Aulas, votre confrère lyonnais, est-ce qu'il fallait reprendre plus tôt ou non ? Finalement, en étant dans le camp de ceux qui ne souhaitent pas un retour du championnat, puisque vous étiez déjà qualifié pour la Ligue des Champions, est-ce que vous n'avez pas plutôt préservé l'OM que la Ligue 1 française ?
Non, là vous faites comme d'autres, Mathieu, vous racontez l'histoire d'une façon fortement biaisée. Tout le football français voulait reprendre. La vérité, c'est que dans les heures qui ont précédé les annonces gouvernementales sur le confinement et la fin de la saison 19-20, tout le monde était en train de préparer les protocoles de reprise, les entraînements devaient reprendre le 11 mai, le championnat devait reprendre dans la deuxième quinzaine de juin. Donc l'ensemble du football français était prêt à reprendre et voulait reprendre. Je rappelle que nous, l'Olympique de Marseille, n'avions pas perçu plus de la moitié de nos droits télé au titre de la saison 19-20. Donc on avait un enjeu financier très très important à reprendre le championnat et à terminer ce championnat. Après, on a l'impression que le foot est un peu un monde en vase clos. On se regarde un peu trop le nombril, vous savez, Mathieu, dans le football. Et à l'époque, on était dans une crise sanitaire absolument majeure avec combien ? 600, 700 morts par jour. Donc c'est très facile de raconter l'histoire d'une façon un peu différente. On verra, hein, à la fin de cette période noire que nous venons de traverser, si la France a eu tort d'arrêter. Je crois que c'est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous les clubs, tous les acteurs, les supporters aussi ont envie que le football reprenne, mais pas n'importe comment. Et c'est ce qu'on va s'attacher à faire.
Il y aura du public au Vélodrome à la rentrée, Jacques-Henri Hérault.
Ben les matchs, la rentrée c'est le 23 août, donc j'espère que on aura une amélioration de la situation, même si je vois des signes qui sont peut-être un peu problématiques aujourd'hui, et j'incite tous nos supporters à faire toujours attention avec les gestes barrières nécessaires et la distanciation sociale nécessaire, parce qu'on voit que cette épidémie n'est pas finie. Mais j'espère bien que effectivement les matchs reprendront avec un public dans les stades. On est là pour ça. Regardez ce qui se passe à l'étranger, en Europe. Des matchs de football à huis clos, c'est pas du football.
Jacques
et donc,
Henri
on espère vraiment que le public sera là.
Jacques-Henri Hérault sur la musique de la Ligue des Champions pour terminer, qui résonnera au stade Vélodrome l'année prochaine. Le président de l'OM
absolument.
Ce matin sur Europe 1 en direct. Merci beaucoup. Merci pour les auditeurs d'Europe 1, les acteurs de l'actualité en direct le matin avec nous. Il est 7h47.
Europe 1. Dans un instant, nous suivrons Jean-Philippe Ballas dans les coulisses de la cérémonie des Molières. Périscope à suivre sur Europe 1. Europe 1. Il est 7h50, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Et c'est l'heure de Périscope à 7h50. Votre rendez-vous culture avec Jean-Philippe Ballaz. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La 32e cérémonie des Molières, c'est ce soir sur France 2. Soirée particulière pour cause de distanciation, bien sûr. Pas de vrai public dans la salle, juste les professionnels. Vous avez pu assister, Jean-Philippe, à une partie des enregistrements au Théâtre du Châtelet.
Oui, et il y a quelque chose d'une joyeuse cour d'école dans le hall du théâtre, un peu comme des gamins qui seraient heureux de se retrouver en robe de soirée et costume un peu classe. En haut des marches, vous voyez Guillaume de Tonquédec, nommé dans la catégorie meilleur comédien dans un spectacle de théâtre privé pour la pièce « 7 ans de réflexion ».
Ça ajoute à la fête, curieusement, parce qu'on a toujours un petit trac, une appréhension. On a été choisi par ses pairs. Comme ça, on est nommé peut-être l'un des meilleurs comédiens de l'année. C'est extrêmement émouvant et extrêmement, comment dire, on a une vraie responsabilité. Mais là, le fait que ça se passe de cette façon-là, avec ces règles de distanciation, cette angoisse de ce confinement, ça donne la juste valeur de cet événement. C'est-à-dire, c'est à la fois important et totalement dérisoire. Et il faut le vivre comme ça. Il faut avoir un bon mélange des deux aspects et faire la fête, quoi.
Là, juste le fait d'être au Châtelet, d'avoir du rouge, d'avoir ce velours rouge, de retrouver l'ambiance d'un théâtre.
J'adore ça. J'ai envie de dire aux gens, rien que d'arriver dans le lieu, c'est déjà une fête. Donc venez refaire la fête avec nous. Venez nous retrouver.
S'il vous plaît, on va rentrer dans une minute maintenant.
Alors on va bien faire attention avant de rentrer. Sur le tapis rouge, il y a des flèches blanches. Désormais, c'est le nouveau protocole. Parmi les dernières entrées, nous sommes avec un habitué des Molières. C'est Alexis Michalik, auteur, acteur, metteur en scène, nommé pour sa pièce « Une histoire d'amour ».
C'est une ambiance très particulière pour le monde du théâtre parce qu'on commence à voir la société qui se réveille, les trains qui se remplissent, les avions. Et on est assez patient, on l'a été assez jusque-là. Mais c'est vrai qu'on attend des signes forts du gouvernement. Le théâtre, c'est pas un cliché de dire que c'est une petite famille. Et c'est des artisans. Moi, j'appelle ça des artisans de l'éphémère. Et c'est un monde assez bienveillant, c'est un monde assez solidaire. C'est pas l'économie qui coûte le plus, hein, mais c'est celle qui fait le plus rêver, je pense. Donc c'est un monde qui mérite d'être soutenu.
Et ça vous entendez? Ça, c'est de la musique et des applaudissements dans le théâtre du Châtelet. Ça faisait longtemps et ça fait du bien. Mais la meilleure image, je voulais garder pour la fin. C'est un homme assis dans les coulisses, la pénombre, un peu loin de tout ce tumulte. C'est un grand nom du théâtre. C'est Nils Arestrup, lui aussi nommé ce soir.
Ouais, je suis bien dans un théâtre, ouais. Oui, c'est un des rares endroits au monde où j'ai pas peur. C'est important de trouver un endroit pour son travail dans lequel on n'aura pas peur. Je crois que peut-être les gens, de temps en temps, ceux qui vont au théâtre, pensent qu'ils en ont besoin du théâtre. Eh bien, c'est le moment, parce que là, vraiment, le théâtre a besoin des gens, du public.
Bref, vous avez compris, le public, le vrai public n'est pas encore là, mais on n'aura jamais autant parlé de lui.
Merci Jean-Philippe Ballaz. La cérémonie des Molières en prime, c'est ce soir sur France 2. C'était Périscope, votre rendez-vous culture, la culture à 360 degrés avec Jean-Philippe Ballaz, 7h53.
L'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Ira, n'ira pas, Jean-Marie Bigard laisse planer le doute sur son projet de se présenter à l'élection présidentielle. C'est sérieux ?
Avec lui, difficile de savoir. Hein. D'abord parce que c'est son métier de ne pas être sérieux, mais aussi parce qu'il semble prendre un malin plaisir à souffler le chaud et le froid. La tendance du moment, dévoilée le week-end dernier, il y va parce que, dit-il, il est ravi. Alors c'est une citation, hein, désolé, mais il est ravi de faire peur à cette bande d'enculés.
Bon, ce qui est sûr, c'est que ce ne serait pas une campagne classique, est-ce qu'il a un programme ?
Oui, une première ébauche, réouverture des maisons closes, un alambic pour tous et un budget nourriture divisé par 3 pour les ménages. Plus surprenant, l'auteur de l'impérissable lâcher de salope promet d'abroger la loi PLM qui fixe le statut des 3 plus grandes villes françaises, Paris, Lyon et Marseille.
Pourquoi ? C'est une réforme plutôt technique hein, par rapport aux autres promesses.
Oui, mais c'est probablement dû au fait que Jean-Marie Bigard vient de se présenter au municipal à Paris avec le forain Marcel Campion. Et il a pris une rouste, une tôle, une correction, une veste. Enfin, je ne sais pas comment dire, sans parler comme un sondeur. Son score à Paris, dans le 6e arrondissement, 0,48%. Il a eu 56 voix. Bah, à ce rythme-là, l'Élysée, c'est pas gagné.
Donc il n'a aucune chance. Attention, hein, l'élection présidentielle réserve toujours des surprises.
Ouais, je ne dis pas qu'il n'a aucune chance, ce serait présomptueux. Et ce serait oublier l'exemple du clown Zelensky, élu président d'Ukraine il y a un an. Ce serait oublier l'exemple italien de Beppe Grillo, ce clown qui a porté son mouvement 5 étoiles au pouvoir. Alors il est vrai que dans l'échiquier politique italien, cette case de l'homme politique anti-système était en partie inoccupée, alors qu'en France, elle est suroccupée cette case. Les candidats anti-système se bousculent. parmi lesquelles la plus populaire est évidemment Marine Le Pen, avec, je vous l'accorde, un sens de l'humour bien différent.
Chez nous, il y a eu l'exemple Coluche.
Oui, il s'était lancé dans la course avec le soutien de plusieurs intellectuels et, disait-il, le parrainage de plus de 500 maires, ce qui a été largement démenti depuis. Quoi qu'il en soit, Coluche a renoncé, Bigard pas encore. Il est dans cette phase où la fébrilité augmente, où des sondeurs le flattent, où l'inquiétude qu'il suscite chez d'autres candidats lui fait croire à sa propre importance et où la bassesse de ses attaques contre Emmanuel Macron, par exemple, n'a pas encore lassé. Sauf que pour arriver à l'Élysée, il ne suffit pas d'insulter les autres. Le vulgaire qu'il revendique permet peut-être de tout dire, de dénoncer des complots plus ou moins imaginaires, pas de faire un quinquennat. On l'a vu avec l'épisode des Gilets jaunes qui se sont fracassés sur les élections européennes. La politique, ben oui, c'est un métier. On peut la détester, la traîner dans la boue, jurer comme Bigard que ce sont tous des tocards. La réalité, elle est plus dure, sérieuse, stricte, exigeante. Président, c'est une tension, c'est une surtension permanente. Candidat aussi. Et c'est mécaniquement faire des millions de déçus, des millions d'adversaires. Très mauvais pour le business, très mauvais pour la carrière d'un artiste. Disons que pour un comique ou un animateur télé, vous voyez peut-être à qui je pense, ce serait, allez, je vais parler comme Bigard, un putain de risque.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. C'est signé, vous partagez d'accord ou pas, hein, votre édito tous les matins. C'est sur Europe 1, hein, juste avant 8h. Très bon réveil.
Europe 1. Le journal présenté par François Geffrier à suivre. La météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Il va faire chaud.
Eh oui, un petit rappel simplement, du grand beau temps pour tout le monde. Des températures agréables, 27 à Lille, 28 à Épinal, 29 à Avranches dans la Manche, 30 à Paris, 32 à Toulouse, 34 degrés du côté de Nîmes. Et en ce moment, il fait quand même un peu frais dans Sologne, comme dans la Creuse, entre 8 et 10 degrés, pas plus. Hein. Mais dans la journée, ça va bien grimper, bien sûr.
Allez, merci beaucoup, Laurent Cabrol. François Geffrier avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer.